Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Actuellement, nos études portent sur un livre de la Bible écrit par le prophète Habacuc.
Tout comme beaucoup, Habacuc vivait dans une société violente et dépourvue de justice. Or, ce livre montre comment, dans un tel contexte, le prophète Habacuc a appris à vivre par la foi et quelles sont les leçons fortes et pertinentes qu'il nous laisse aujourd'hui. Tout au long de cette série, Ian sera en compagnie de notre invité André.
Bonjour André.
Bonjour Ian et bonjour à tous.
Depuis plusieurs émissions, nous apprenons à travers les écrits du prophète Habacuc la façon dont nous pouvons vivre par la foi, toutes les fois que la souffrance et l'injustice font rage dans nos vies.
Oui, et nous poursuivrons cette étude aujourd'hui alors que nous arrivons à la dernière de mes interventions. La leçon que nous allons retenir à présent est qu'il est possible de trouver en Dieu toute la joie et la force nécessaires alors même que la société autour de nous s'écroule.
Certains de nos auditeurs vivent des circonstances fort éprouvantes.
Et c'est la raison pour laquelle je voudrais attirer leur attention sur les derniers versets écrits par le prophète Habacuc, au chapitre 3, versets 16 à 19 du livre qui porte son nom.
Le figuier ne bourgeonnera plus, et il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, les bœufs de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés.
Merci, Hélène. Le prophète évoque de façon frappante et émouvante les circonstances dramatiques et tragiques qu'il allait endurer. Mais à quels événements fait-il allusion exactement?
Nous savons que Dieu avait révélé au prophète que son peuple, la nation de Juda, était sur le point de subir son jugement en raison de ses nombreux péchés graves. Dieu allait en effet permettre aux Babyloniens, un peuple redoutable et cruel, d'envahir leur pays. Les circonstances en seraient désastreuses. Des morts sans nombre allaient tomber. La plupart des survivants seraient contraints de partir en exil. Et pour le peu qui allait rester dans le pays, tout y serait ruiné, l'envahisseur ayant tout ravagé. Habacuc dépeint un pays démuni de tout et une population plongée dans la pauvreté la plus absolue. Et pourtant, ses paroles reflètent sa foi profonde en Dieu, sa totale confiance en lui. Car, malgré ses conditions de vie effrayantes, Habacuc affirme que Dieu demeure son sauveur. Il répète qu'il est sa source de joie intarissable, la force qui lui permet de tout endurer.
C'est extraordinaire.
Oui. Mais ces vérités sont tout aussi précieuses pour nous aujourd'hui et elles demeurent d'actualité pour bien des personnes. Car celui ou celle qui vit par la foi découvrira que Dieu est un sauveur, une fontaine inépuisable où l'on peut puiser sa force et sa joie.
Ce texte évoque la pauvreté et nombreux sont nos auditeurs qui doivent faire face à cette réalité au quotidien et de façon plus ou moins grave.
Oui, et la pauvreté peut engendrer l'anxiété et la souffrance. C'est pourquoi l'Église doit œuvrer pour remédier à ces causes. Cependant, le prophète Habacuc affirme qu'il est possible pour tout être humain d'être riche, même en étant pauvre et démuni. Car Dieu se donne à celui qui place sa foi en lui. Il se révèle à lui. Lorsque nous connaissons Dieu dans toute sa plénitude, il devient pour nous une source de joie, notre trésor le plus précieux. Selon le prophète, même si nous avons tout perdu, mais que nous connaissons Dieu, nous pouvons être heureux.
André, certains de nos jours assurent que si nous plaçons notre foi en Dieu, nous deviendrons alors prospères sur le plan matériel. Oh, ce texte semble aller à l'encontre de cet enseignement.
Je suis d'accord, et ce texte, parmi beaucoup d'autres, démontre que ces affirmations au sujet de la prospérité matérielle sont fausses. Dieu désire que nous nous contentions de lui. Dieu désire que notre joie la plus profonde soit puisée en lui. Chers auditeurs, la Bible, en parlant des richesses, nous apprend qu'elles peuvent nous égarer et nous empêcher de connaître Dieu. Si nous sommes heureux essentiellement parce que nous avons pu acheter une voiture ou le dernier téléphone portable sorti sur le marché, n'oublions pas de nous réjouir aussi en Dieu, de puiser en lui notre plaisir le plus profond pour tous les bienfaits spirituels reçus. Ne nous laissons pas égarer par les plaisirs trompeurs de biens matériels. Mes chers amis, dans la vie, vous pourrez perdre bien des choses, sur le plan émotionnel, physique ou autre. Mais le trésor que jamais vous ne perdrez, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jamais il ne vous quittera. Jamais il ne vous délaissera. Voilà la raison pour laquelle vous pouvez vous réjouir.
Merci André. Nous avons parlé de la joie, mais le prophète ajoute que Dieu est aussi celui qui fortifie.
Oui, il écrit « Le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. »
Expliquez-nous cette illustration des biches qui se promènent sur les chemins élevés.
Si vous avez déjà essayé de gravir une montagne, vous savez que cela est difficile et demande beaucoup d'efforts. Cependant, pour certains animaux, tels que les biches par exemple, il en est tout autre. Car ils courent même sur les lieux escarpés, ils le font sans effort, du fait de leur agilité. Les biches bondissent de rocher en rocher, là où nous aurions tant de mal à progresser. Lorsque l'épreuve frappe à notre porte, que l'adversité fait rage, notre chemin ressemble à des sentiers de montagne. Nous avons du mal à avancer, nous nous épuisons et baissons les bras. Cependant, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, il intervient et nous fortifie. Il nous relève et nous permet de progresser et tout endurer. Or aujourd'hui, cher ami, Dieu veut vous donner sa force, à vous aussi, et quelles que soient vos circonstances.
Merci André pour ces leçons si encourageantes. C'est ainsi que se termine notre série sur le livre du prophète Habacuc et notre prière pour tous, et que vous puissiez réellement vivre par la foi dans ce monde injuste et malheureux. Dieu interviendra un jour sans aucun doute. C'est pourquoi nous pouvons mettre notre espérance en lui.
Merci André. Notre désir est que le Seigneur puisse fortifier votre foi et votre espérance dans un monde souvent malheureux. À présent, nous allons passer à notre méditation biblique. Nous étudions ce que l'Épître aux Hébreux nous enseigne au sujet de Jésus. Et je cède tout de suite la parole à notre invité Sébastien. Bonjour.
Merci Hélène et bonjour à tous. L'Épître aux Hébreux nous parle beaucoup de la grandeur de Jésus-Christ. Et la dernière fois, nous avons appris que nous pouvons nous approcher de lui avec confiance et pleine assurance. Jeannine va relire le texte qui confirme cette vérité dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 et 15.
Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment.
Toute personne éprouvée par la tentation ou plongée dans une épreuve souhaite la délivrance ou cherche un secours. Or, ce texte nous l'affirme. Parce que Dieu est bon et compatissant, il viendra à notre secours. Cependant, beaucoup peuvent constater que la délivrance à laquelle ils aspirent ne vient pas ou tarde à venir. Alors, ils en arrivent à douter de l'authenticité de leur foi, à douter de la bonté de Dieu et de son écoute. Comment résoudre cette énigme ? Voici une tâche difficile. Je voudrais toutefois apporter les remarques suivantes. Notons bien que selon le texte lu, le secours de Dieu vient au bon moment. Cela veut dire au moment choisi par lui. Dieu est souverain. Il connaît tout et il agit selon sa volonté et sa sagesse. Ainsi, il nous délivrera selon ses plans, mais au moment qu'il aura choisi. Or, ne l'oublions pas, la meilleure des délivrances consiste à sortir de cet âge présent et à entrer dans la vie éternelle, en passant par la mort et la résurrection. Dieu, dans sa grâce, peut répondre à nos prières, et parfois, il le fait de façon extraordinaire, mais nous ne pouvons rien exiger du Seigneur. Nous ne pouvons pas lui imposer notre propre façon de concevoir notre délivrance. Dieu nous délivrera en son temps et à sa manière, et souvent d'une façon tout à fait inattendue. Ma deuxième remarque est tout aussi importante. Souvent, le secours de Dieu consiste à nous aider à endurer nos circonstances éprouvantes, à persévérer dans l'affliction, tout en demeurant confiant et fidèle. Le prophète Ésaïe, par exemple, a déclaré de la part de Dieu : « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Ainsi, le secours de Dieu consiste à demeurer proche de ceux qui sont plongés dans la pire des situations. Son intervention consiste à fortifier et à encourager ceux qui souffrent à relever et à renouveler. Son secours consiste à redonner la force, à faire croître en nous l'amour et tant d'autres choses dont nous avons besoin pour demeurer fidèles et vivre pour sa gloire dans un monde bien difficile.
Merci Sébastien pour ces remarques enrichissantes.
Nos deux séries se terminent aujourd'hui et la prochaine fois nous écouterons un témoignage. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.